Kiosque Magazine.
Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes du canal M. Lundi 4 mai, le lundi,
oui,
c'est
lundi.
C'est au rayon de la culture et de la société que nous allons chercher nos textes.
Vous m'en direz tant.
Oui, et ceux qui ont fait des recherches en fin de semaine et qui vous présentent peut-être avant aussi.
Oui, oui, vous allez faire vos recherches dans, oui, les feuilles d'automne, on entend le bruit des feuilles.
Ah oui, non, mais c'est bien. Ça m'a été, ça fait la troisième fois qu'on me le rappelle.
Oh non,
j'apprendrai peut-être
vrai
un jour.
Je m'appelle Serge.
Sergio Hamelin.
Oui,
bonjour,
oui.
Serge. Franceline.
Oui, Lufia, bonjour.
Et c'est Roger Roy qui vous parle. Alors, nous sommes là pour l'heure qui s'en vient.
Oui.
Assisté en régie par Jean-Sébastien Laliberté.
Mm-hmm.
Il est en train de jouer après tous ses boutons. Il nous fait des grands signes.
Oh, il a l'acné ce matin? Non, oh, non.
Et il a, oui, très hâte d'entendre un texte en particulier. Ça parle des barbecues. Est-ce que vous allez nous en parler?
Non,
ça?
J'ai changé de sujet.
Changé de sujet.
Bon. Ah!
De quoi allez-vous nous parler?
C'était trop hot. Je vais vous parler des pédicures.
Pédicures, bon.
C'est beau, hein?
Et autre chose?
Et autre chose, oui, du climat. Vous savez qu'on a changé de climat ce matin, hein?
Oui, pas mal, oui. Ah.
Et oui, et moi j'ai été inspirée justement par le soleil de cette fin de semaine. Et j'ai deux articles sur le soleil et bronzage, vrai ou faux, quelques questions. Mm-hmm. Et puis des conseils pour une vente débarras réussie.
Ah, ben là, ça je vais être tout attentif.
Ben, restez à l'écoute.
Ah, bon, mais pour ma part, moi je vais vous parler d'une épreuve orale. Je ne donne pas plus de précisions. Mais pour tout de suite...
Une épreuve orale.
Orale, une épreuve.
Tiens.
Oui. Je vais vous parler maintenant d'un virage vert qui se passe en Chine.
Ah!
Oui, en Chine. C'est dans l'actualité du 15 avril. C'est Valérie Borde qui signe un long papier d'une dizaine de pages. Je vous donne un aperçu de son contenu en commençant par des chiffres. Selon les chiffres officiels chinois qui sous-estiment sans doute la réalité... Plus de 70 % des cours d'eau et des lacs sont gravement pollués, dont la moitié présente un danger simplement au contact.
Incroyable.
Mmh. On dénombre 450 « villages du cancer », c'est entre guillemets,
ben,
où la pollution industrielle a fait exploser les cas de cancer.
Incroyable.
20 % des terres agricoles renferment des niveaux toxiques de métaux lourds, comme l'arsenic ou le plomb. Même la moitié du riz consommé dans la ville de Canton au lieu de la gastronomie contient des quantités dangereuses de cadmium.
Ben voyons.
Ah, c'est pas Jojo là-bas, là. Cela dit, depuis quelques années,
ouais,
la révolte gronde dans la population. Plus instruite, ouverte sur le monde et préoccupée par sa santé, la génération née de la politique de l'enfant unique qui avait été implantée en 1979 se montre plus exigeante à mesure qu'elle s'enrichit et qu'elle constate les ravages environnementaux. Depuis 2007, les manifestations contre les projets polluants n'ont cessé de prendre de l'ampleur, mais un phénomène en particulier a tout changé, le smog. En décembre 2011, des analyses de l'air réalisées par l'ambassade américaine à Pékin apparaissent sur le réseau social chinois Sina Weibo, qui compte plus de 600 millions d'utilisateurs.
Seulement,
oui. Elle révèle des taux de smog jusqu'à 40 fois supérieurs au maximum recommandé par l'Organisation mondiale de la santé.
Non.
Dès lors, la pression s'accentue sur les dirigeants pour qu'ils agissent. La pollution et ses ravages font la une des journaux, alors que sur Sina Weibo, des personnalités disent leur ras-le-bol. En mars 2014, le premier ministre Li Keqiang a annoncé aux parlementaires que son gouvernement avait déclaré la guerre à la pollution. À grand renfort de réformes radicales, la Chine s'attaque à son lourd passif environnemental et au changement climatique. La lutte ne sera pas facile. Mais si le plan réussit, il y aura des effets planétaires parce que la Chine, qui compte pour près d'un cinquième de la population du globe, émet 30 % de ses gaz à effet de serre. Et aussi parce que les technologies propres chinoises ont commencé à conquérir la planète. Dans les énergies renouvelables ou les transports électriques, des entreprises du reste du monde pourraient être terrassées par ce nouveau géant vert. Dans d'autres secteurs, les progrès en environnement donneront à la Chine un nouvel avantage concurrentiel. Voici un exemple d'initiative chinoise qui pourrait se généraliser en Chine et migrer vers le reste du monde, c'est le groupe Broad, B-R-O-A-D, dirigé par Zhang Yu. Voici comment la journaliste Valérie Borde explique l'expérience qu'elle a vécue. Dans l'ascenseur de l'hôtel New Ark, A-R-K, je ressens un petit frisson. 6 jours, C'est le temps qu'il a fallu en 2010 pour édifier cet immeuble de 15 étages sur un terrain du groupe Broad à Changsha, capitale de la province du Hunan dans le sud-est de la Chine. A priori, le New Ark est pourtant costaud puisqu'il peut résister à un séisme de magnitude 9. Je pense que celui du Népal, c'était 7,5 ou quelque chose comme ça.
Oui,
sur YouTube, la vidéo en accéléré qui le montre, poussé sous les balais des grues, a fait un malheur, tout comme celle de la naissance de son petit frère de 30 étages, fini en 15 jours en 2012.
15 jours?
15 jours.
30 étages.
Étourdissant. À 100 $ la nuit, ma chambre semble sortie d'un catalogue IKEA. Elle est confortable et, chose rare en Chine, bien isolée thermiquement. On n'entend pas non plus la circulation infernale en contrebas. Mais surtout, surtout, je dors enfin dans de l'air propre, car des filtres éliminent la quasi-totalité des particules fines dans le bâtiment. Ces fameuses PM2,5, appelées ainsi parce qu'elles mesurent moins de 2,5 microns, empoisonnent souvent l'air de cette métropole de 3 millions d'habitants, qui fait pourtant bonne figure comparée à d'autres villes de Chine. La veille, j'ai cru laisser mes poumons à Pékin après 5 jours à un taux de PM2,5 oscillant entre mauvais pour la santé et au-delà du seuil mesurable. À ce niveau-là, marcher 15 minutes sur le plat sans masque est aussi exténuant et bien plus dangereux que de monter en courant les 400 marches de l'escalier du Cap Blanc à Québec. Dans les dernières années, le groupe Broad a raflé de nombreux honneurs à l'échelle internationale. Pas parce que ces immeubles sortent de terre plus vite que des champignons, plutôt parce que ces techniques rendent la construction, le chauffage et la climatisation des bâtiments beaucoup, beaucoup plus écologiques que ce qu'imposent les standards internationaux actuels. Il est possible que l'expérience Broad se répande dans le monde. C'est la façon chinoise de fonctionner. Il y a une image ici de l'ex-dirigeant chinois qui s'appelait Deng Xiaoping, qui disait qu'il fallait traverser la rivière en tâtant les pierres, explique Maud-André Lefebvre, représentant du Québec à Pékin. Tout comme la Chine s'est ouverte à l'économie de marché en implantant d'abord des zones économiques spéciales, elle généralise ses expériences si ça fonctionne. Une fois lancé, le rouleau compresseur chinois est bien difficile à arrêter. Avec les énergies renouvelables, cette approche a très bien fonctionné. Ainsi, en moins de 10 ans, la Chine est devenue le premier producteur mondial d'énergie éolienne. Pour ce qui concerne les véhicules fonctionnant à l'électricité, la Chine peine comme les autres pays, mais elle a beaucoup d'ambition dans le domaine du transport en commun. Et elle développe ça, un système en Chine avec l'aide d'Hydro-Québec actuellement, ça s'appelle TM4. Et ça peut donner des résultats. Alors, la Chine, qu'est-ce que c'était le titre déjà? La Chine,
c'est chaud. Un virage vert.
Le virage vert de la Chine. Dans l'actualité.
Alors maintenant, soleil et bronzage, le vrai et le faux. C'est un article écrit par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge de mai 2015. Et donc, ça répond à quelques questions.
Il faut s'éloigner du smog. Hein?
Absolument.
Oui.
Donc, avec l'été, nous revient l'envie de profiter des plaisirs de la baignade, de pratiquer des activités de plein air et de lézarder dehors, sans que notre peau et nos cheveux souffrent d'un trop-plein de soleil. Alors voilà quelques mythes et réalités. Bronzer sans brûler, c'est possible? Vrai. À condition de respecter scrupuleusement certaines règles.
On écoute.
Optez pour un produit solaire hydrofuge avec indice de protection, le FPS, de 30 ou plus pour vos activités de plein air et vos séances de bronzage, et d'au moins 15 pour vos sorties de courte durée. Un petit rappel, un FPS 15 protège à 93%, un FPS 30 à 97% et un FPS 60 à 98%. De nouveaux produits solaires affichent un FPS 100, toutefois, aucun ne protège à 100%. La protection de 60 et plus est habituellement réservée aux personnes ayant des antécédents de cancer de la peau, des allergies au soleil ou prenant des médicaments photosensibilisants. Appliquez l'écran solaire 30 minutes avant de sortir pour donner le temps à la peau d'absorber ses ingrédients actifs. Renouvelez l'application toutes les 2 heures, même si vous utilisez une formule résistant à l'eau ou à indice élevé. Et soyez généreux. En étirant votre crème au maximum, vous réduisez son degré de protection. La norme, 30 ml de produit, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un œuf, la taille d'un œuf, pour couvrir le corps. Et n'oubliez pas les zones à haut risque, les épaules, la nuque, les racines des cheveux, les oreilles, les pieds, les démarcations du maillot de bain. Enfin, évitez les expositions au moment où les UV, les ultraviolets, hein, sont à leur maximum, soit entre 11h et 16h. Voilà. Alors, deuxième question. Toutes les protections solaires se valent.
Tiens,
non, c'est faux. C'est faux. Les protections ne sont pas toutes à large spectre. Le FPS indique seulement le niveau de protection contre les UVB. Or, si les UVB sont responsables des coups de soleil, les UVA, eux, causent des intolérances solaires, contribuent au cancer de la peau et accélèrent le processus de vieillissement en pénétrant dans le derme. Et contrairement aux UVB, les UVA sont actifs du lever au coucher du soleil et ce, tout au long de l'année. Ils traversent même les vitres. Sélectionnez une formule qui agit à la fois contre les UVA et les UVB. Une peau foncée est protégée des coups de soleil ? Non, c'est faux. Un coup de soleil est moins perceptible sur une peau foncée, mais celle-ci n'est pas pour autant à l'abri des dommages induits par les ultraviolets. En réalité, une peau foncée ou hâlée n'offre qu'une infime protection contre le soleil, soit l'équivalent d'un FPS de 2 ou 4 environ, nettement insuffisant. Et elle ne protège pas du tout des UVA. Les lèvres n'ont pas besoin de protection solaire. C'est faux.
Oui.
Outre leur épiderme mince et délicat, les lèvres ne bronzent pas. Elles résistent donc mal aux assauts du soleil. Elles s'assèchent, se rident rapidement, sans compter le risque d'y développer un cancer de la peau. Mettez-les quotidiennement à l'abri des UV avec un baume pour les lèvres doté d'un FPS d'au moins 15 et appliquez-en souvent. L'utilisation d'un écran solaire entraîne des carences en vitamine D.
Oui.
Et non, c'est faux. Il est vrai que les filtres peuvent diminuer la capacité de la peau à synthétiser la fameuse vitamine, mais si vous passez de longues heures à l'extérieur, une bonne protection ne vous empêchera pas de faire le plein de vitamine D, puisque les produits solaires ne bloquent pas totalement les rayons. Dans le cas contraire, sachez qu'il suffit d'exposer votre visage et vos bras au soleil, sans écran, une dizaine de minutes chaque jour pour conserver un bon taux de vitamine D.
Voilà.
Les crèmes solaires ne sont pas bonnes indéfiniment.
Ah non ?
Non, c'est vrai. En général, les écrans solaires se conservent au maximum 12 mois après l'ouverture du contenant.
Oh, comme du yogourt.
Oui, mais oui. La raison, les ingrédients actifs s'altèrent rapidement sous l'effet de la lumière et de la chaleur. À l'intérieur du sac de plage, par exemple, ça perd ainsi son efficacité.
Ah bon ?
Les soins après soleil ne sont nécessaires qu'en cas d'insolation. C'est faux. Vous pouvez les utiliser après chaque exposition aux ultraviolets, que votre peau ait rougi ou non. Ils apaisent l'échauffement, en plus d'atténuer les dommages causés par les UV, le vent, le sel et le chlore. De plus, ils gorgent les cellules d'eau et de lipides pour lutter contre la déshydratation et l'assèchement. La protection solaire est utile même quand le temps est couvert. Vrai.
Ah oui?
Oui, jusqu'à 80% des rayons UVA peuvent transpercer les nuages, sans compter les soudaines trouées qui laissent passer les UVB. Et ne vous fiez pas à la température extérieure, même par temps frais, vous pouvez attraper un coup de soleil. On peut parfaitement s'exposer au soleil après s'être rasé ou épilé. C'est faux. L'utilisation du rasoir, de la cire ou des dépilatoires entraîne une légère desquamation et irritation de la peau. Fragilisée, celle-ci se défend mal contre les ardeurs du soleil. Conséquence, un risque accru de coups de soleil et de taches pigmentaires. La solution, éliminer les expositions au soleil de 24 à 48 heures après l'épilation. Et si vous vous faites épiler au laser, fuyez le soleil pendant les 4 semaines qui suivent le traitement. Enfin, se baigner dans une piscine contenant du chlore ou du sel nuit à la chevelure. C'est vrai. L'eau salée et le chlore fragilisent les cheveux, les déshydratent et ternissent leur éclat. Le soleil et le vent également. Plus encore, le chlore peut entraîner par un phénomène d'oxydation une décoloration. Les blonds verdissent, les bruns roussissent, les roux virent à l'oranger. Mettez vos cheveux sous protection. Avant la baignade et les longues balades à vélo ou à pied, en les enduisant d'un écran solaire capillaire ou d'un revitalisant traitant sans rinçage, qui gaine la fibre capillaire et fait barrière contre les agressions. Rincez immédiatement votre chevelure à l'eau claire après chaque baignade pour déloger les résidus.
Ah ben.
Et enfin, portez un chapeau à large bord. En plus d'être joli, il vous protégera du soleil en tout temps.
Oui, il y a des casques de bain aussi.
Hein. Oui, on a tout faux, il va falloir relire. Hein,
Serge, cet article. Alors, c'était un article écrit par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge, de mai 2015.
Eh bien, on poursuit dans le soleil, mais un soleil qui va de plus en plus se réchauffant.
C'est vrai.
Oui, l'été s'en vient. Mais je ne vous parlerai pas de ce changement climatique. Je vais vous parler de l'autre, le pire. Hein? Un tableau sombre du GIEC. Après ceux de 90, 95, 2001 et 2007, le cinquième rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, publié en novembre 2014, dresse un bilan plus qu'alarmant et voici trois chiffres à retenir. 95 % 98 cm et moins 70 %
Hey, on est dans la confusion totale.
Retenez ça.
De quoi parle-t-on?
95 %, c'est pas drôle. C'est le degré de certitude 95%. Selon le GIEC, c'est que l'activité humaine est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis le milieu du 20e siècle. Surtout ceux qui font du jogging. Avez-vous remarqué toute la chaleur qui se dégage quand il court?
Oui, pas à Pékin, il ne faut pas en faire à Pékin. Non.
Le rapport de 2007 plaçait la barre de certitude à 90 % La concentration des gaz à effet de serre et l'appauvrissement de la couche d'ozone sont les facteurs du réchauffement sur lesquels l'influence humaine est la plus sensible. 98 cm, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le niveau des océans en 2100 qui pourrait s'élever de quasiment un mètre par rapport à la période 86-2005. Les projections du GIEC sont variables et questionnables. Le précédent rapport de 2007 mentionnait une montée des eaux de 59 cm, mais avait été critiqué parce que cette projection ne tenait pas compte des pertes de glace du Groenland et de l'Antarctique. Ah bon? Moins 70 %, c'est quoi ça? C'est la réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est-à-dire CO2, méthane, protoxyde d'azote en 2050 par rapport à leur niveau de 2010 pour maintenir la hausse moyenne des températures en dessous de 2 degrés centigrades. Et selon le rapport, depuis 2010, les émissions augmentent plus vite encore que dans les décennies précédentes, si bien que la concentration de ces gaz atteint désormais des niveaux sans précédent. Il ne faut pas confondre taxe carbone et bourse du carbone. La taxe carbone est une taxe environnementale sur l'émission de dioxyde de carbone, gaz à effet de serre, qu'elle vise à limiter afin de contrôler le réchauffement climatique. Il s'agit d'une mesure qui vise à décourager les émissions polluantes en faisant payer les pollueurs à proportion de leurs émissions. Le prix des produits augmente alors en fonction des émissions qu'a engendré leur production, favorisant les produits ayant induit moins d'émissions de dioxyde de carbone. Et la taxe carbone est une possibilité ouverte aux pays s'étant engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, par exemple pour le protocole de Kyoto. Elle peut être appliquée ou des produits, ou plus commodément, à la production ou l'importation d'énergie fossile qui émettra du dioxyde de carbone en étant consommé. La bourse du carbone, elle, est un marché organisé prévu par le protocole de Kyoto. Elle permet de négocier ou d'échanger les droits d'émission de gaz à effet de serre, CO2, méthane, protoxyde d'azote, etc. Et la bourse du carbone permet aux entreprises de réduire les coûts d'adaptation de son industrie à une limite à l'émission. Sans bourse, une firme A, en dessous de son quota, ne fera plus aucun effort de réduction, alors qu'avec une bourse, un effort de réduction pourra se monnayer.
La Chine s'intéresse à cette bourse. Oui, quand le premier ministre est allé là, on lui en a parlé.
Et voilà. Les animaux et les végétaux sont désormais cotés en bourse, imaginez-vous donc. Ce marché vert qui ne cesse de se développer est une nouvelle manière de générer du profit sur le dos de la planète. Ainsi, les entreprises peuvent à la fois détruire et préserver l'environnement tant que cela rapporte, comme le dénonce le documentaire Coup de poing de Sandrine Fedel et Denis de Lestrac, Nature, le nouvel Eldorado de la finance. Incroyable. Assujettie à une valeur marchande, la nature fait désormais partie des produits bancaires dans lesquels il est possible d'investir. Face à la crise écologique dénoncée par les environnementalistes, de nombreuses entreprises ont vendu au grand public leur empreinte verte. En réalité, les banques et les investisseurs privés ont évalué le prix de la biodiversité sous prétexte de la préserver, mettant ainsi en place un réel système de marchandisation. Le principe est simple. En attribuant un coût, par exemple, à la forêt amazonienne et les espèces animales et végétales qui y vivent, elles peuvent être achetées et vendues comme des titres en bourse. Ainsi, sur le marché, il existe des titres sur la mouche, l'orang-outan, le caïman, etc., etc. La loi des marchés financiers protège donc une entreprise polluante qui, d'un côté, achète des titres arbres centenaires d'Amazonie, pour de l'autre, déboiser l'Amazonie ou augmenter ses émissions de GES. C'est beau, hein? Et les victimes du climat, ben, ils sont de plus en plus nombreux à fuir la montée des eaux ou des conditions météorologiques extrêmes. Le changement climatique ne remet pas uniquement l'avenir de la planète en question, mais aussi celui des populations forcées d'abandonner leur foyer pour des raisons environnementales. Alors voilà.
Alors, quelques brèves. Remarquables alcools d'ici. La première édition de Vins et fromages du Québec, guide des meilleurs achats, propose de boire local en découvrant les 125 meilleurs alcools québécois, toutes catégories. Jessica Arnois, sommelière, et André Caron, dégustateur, les répertorient, vantent les apéritifs, encensent les rosés, célèbrent les mousseux. Il suggère des accords avec les fromages d'ici et des spécialités du terroir et quelques mariages chocolat. De bonnes idées pour la fête des mères. Des propositions de circuits dans les vignobles et les cidreries complètent ce palmarès. C'est aux éditions Québec-Amérique.
Quand on se compare,
oui, allez-y.
Serge, oui. Le Québec est l'un des États qui mèneront probablement les politiques d'austérité les plus sévères parmi les pays riches en 2015, soutient l'économiste Pierre Fortin, qui a comparé le degré d'austérité du Québec à celui d'une douzaine de pays développés. Du lot, seul le Japon et l'Australie ont prévu des politiques budgétaires plus austères que les siennes, que le Québec. Selon lui, un budget marqué par l'austérité est un budget dans lequel l'État vise à améliorer la partie du solde budgétaire qu'il contrôle en ralentissant ses dépenses ou en haussant ses impôts. Le Québec aura ainsi un degré d'austérité de 1 % de son produit intérieur brut comparé à l'Allemagne à moins 0,2, le Canada 0,3, avec d'autres pays sont comparés.
Oui, 250 millilitres de jus de betterave consommés tous les jours pendant 4 semaines diminuent durablement la pression artérielle chez les hypertendus. Cet effet est dû au nitrate contenu dans la boisson.
Ouais, c'est peut-être moins bon que nos alcools.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Nous sommes donc de retour pour la prochaine demi-heure, oui. Avec le Kiosque Magazine du lundi 4 mai. Épreuve orale, c'est un texte que j'ai lu dans le Reader's Digest et signé ce texte par Samantha Rideout. Il s'agit non pas d'un examen de fin d'année à l'université ou à l'école de théâtre, Serge, mais de la gingivite. C'est un mal éprouvant.
Mais oui.
Le soir, êtes-vous parfois tenté de négliger vos dents?
Oh, mais avec sansodine.
Rappelez-vous que toutes sortes de bactéries prolifèrent dans votre bouche. Arrête. Plusieurs demeurent inoffensives, voire utiles, mais d'autres se déposent sur vos dents en un biofilm fin et pâle. C'est la plaque dentaire. Un bon lavage peut l'éliminer, mais seuls 73 % des Canadiens se nettoient les dents au moins 2 fois par jour, tel que recommandé.
Ah!
Au bout de 2 ou 3 jours, cette plaque durcie se transforme en tartre, que seul le dentiste pourra enlever. Si vous n'avez pas consulté un dentiste depuis plus d'un an, le risque est de 50 % de souffrir de gingivite, une forme bénigne de maladie des gencives causée par la plaque dentaire et le tartre. C'est le cas si vos gencives saignent, ou semble reculer en découvrant vos dents. Une inflammation persistante finit par créer des espaces entre dents et gencives où les bactéries se multiplient. Ces infections profondes ou parodontites sont parmi les principales causes de la perte des dents chez les adultes. Comme la gingivite... ne me regardez pas comme ça.
Mais non.
Comme la gingivite met du temps à se manifester, elle se déclare souvent après 35 ans. 7 Canadiens sur 10 en souffriront au cours de leur vie. Globalement, la santé bucco-dentaire s'améliore au pays, mais avec le vieillissement de la population, les dentistes notent une hausse des problèmes de gencives. En règle générale, on intervient avant la perte des dents. Ouais. Au premier stade, les traitements de la gingivite sont simples, antibiotiques ou nettoyage en profondeur. Toutefois, en cas de parodontite sévère, si les cavités entre les dents et gencives sont profondes de plus de 5 mm, une intervention chirurgicale sera nécessaire. Le dentiste examine l'état des gencives lors de chaque examen de routine. La plupart des individus ignorent qu'ils sont atteints de gingivite, même si un examen de routine suffirait à les en informer. Ce n'est guère étonnant car, selon les plus récentes données de Statistique Canada, 17 % des Canadiens négligent la visite annuelle chez le dentiste à cause de son coût élevé. En raison des circonstances historiques qui ont mené à la mise sur pied d'un régime national d'assurance maladie, parmi lesquelles il ne faut pas oublier la pression des dentistes, la santé bucco-dentaire ne fait pas partie de la loi canadienne sur la santé. Actuellement, le régime public d'assurance maladie ne couvre que 6 % de la population, jeunes enfants et chômeurs, par exemple, selon les provinces. Au Québec, en milieu hospitalier, toute personne assurée à la RAMQ a droit sans frais à certains services de chirurgie buccale en cas de traumatisme ou de maladie. Pour les enfants de moins de 10 ans et les prestataires d'une aide financière de dernier recours, certains services additionnels sont également offerts gratuitement, tant en clinique dentaire qu'en milieu hospitalier. Par ailleurs, tous les assurés peuvent recevoir certains soins sans frais auprès des dentistes participant au régime d'assurance maladie. D'autres services, tels que le blanchiment, la parodontie ou l'orthodontie, demeure en revanche non couvert, quel que soit l'âge du patient, sa situation et le lieu de prestation des soins. Néanmoins, la gingivite pèse indirectement sur le système public car elle peut notamment aggraver les complications dues au diabète et augmenter le risque de maladies cardiaques. Selon certaines études, les bactéries nocives de la gingivite pourraient entrer dans le sang et se propager dans tout le corps, affectant le cœur, les poumons et autres organes. La question mérite toute l'attention de l'État et la nôtre surtout. Hein. Pour compléter ce texte qu'on trouve sous la rubrique Générale Santé dans la Reader's Digest du mois de... Quel mois? Du mois d'avril, oui. De courtes nouvelles médicales, le genre d'études auxquelles se livrent les universités a parfois de quoi surprendre, mais il y en a beaucoup, toutes sortes d'études. À mon avis, ça surprend. Première étude. Des chercheurs du Centre de la maladie d'Alzheimer à l'Université d'Alabama à Birmingham ont relevé 5 signes de perte de compétences financières, comme oublier de régler ses factures ou les payer en double, l'incapacité à calculer un pourboire ou à comprendre certaines notions de base. Si un proche vieillissant exécutait mieux ses tâches auparavant, songez à obtenir un pouvoir de signature sur son compte en banque et éplucher ses relevés. Ça prenait probablement pas une étude universitaire. Arriver à cette conclusion. Les avantages des prises de bec, saviez-vous ça?
Non.
Une autre étude. Les disputes de vos parents n'ont pas eu que des effets négatifs d'après une étude du Collège Rollins de Floride et même de l'Université d'État de la Pennsylvanie. Les chercheurs ont mesuré le taux de cortisol, une hormone liée au stress, dans la salive de 50 couples. Ils ont ensuite interrogé les conjoints séparément sur leurs relations de couple, leur ont fait remplir un questionnaire sur leur histoire familiale et les ont fait discuter d'un conflit entre eux. Ceux qui avaient subi des agressions verbales dans l'enfance se sont avérés moins stressés après coup, comme s'ils étaient mieux à même de gérer les disputes. Voyons donc. Bon, c'est dans le Reader's Digest du mois d'avril.
Alors, des conseils pour une vente débarras réussie. C'est écrit par Jacqueline Simoneau.
Une vente de quoi?
De vente débarras.
Débarras?
Débarras réussie. Ah. C'est écrit donc par Jacqueline Simoneau.
Vente de débarras.
Non? Ah, vente débarras. Oh, bon. Débarras. C'est écrit par Jacqueline Simoneau dans Le Bel Âge de mai 2015. Donc, après un grand ménage printanier, vos bacs débordent d'objets en bon état dont vous voulez vous départir. Pas de problème, organisez une vente débarras. Mais pas n'importe comment, son succès repose sur une minutieuse préparation. Voici quelques conseils. Les jours précédant la vente, vérifiez les règlements municipaux. En effet, certaines villes fixent des dates précises pour tenir ce type d'activité, limitent l'affichage ou exigent un permis. Il n'y a pas de mesure particulière concernant les dates, c'est super. Évitez tout de même de tenir votre vente un week-end férié ou un jour de grand événement, genre festival, marathon. Vous risquez de perdre des clients potentiels. Triez les objets. Quelques jours, voire quelques semaines avant l'événement, triez les articles à vendre. Classez-les par catégorie. Vêtements, livres, CD, vaisselle, etc. Cela vous facilitera la tâche lors de l'étalage. Assurez-vous que tout est en bon état et lavez tout ce qui peut l'être. Si vous avez conservé les manuels d'instruction des objets électriques ou électroniques, sortez-les. Les acheteurs seront heureux de les avoir. Annoncez votre vente. Après avoir déterminé la date, le lieu et l'heure, annoncez votre vente quelques jours à l'avance. Il existe diverses façons de le faire. Placez une annonce dans le journal local. Utilisez le tableau d'affichage offert par certains détaillants ou centres communautaires. Placardez des affiches sur les poteaux du quartier aux endroits achalandés, si les règlements municipaux le permettent. Distribuez des dépliants aux voisins, amis, collègues. Utilisez le bouche à oreille. Placez des annonces sur les sites spécialisés gratuits, Kijiji, arrondissement.com. Pour réaliser vos affiches, utilisez des couleurs vives et de gros caractères afin qu'on les voit bien de loin. Avisez vos voisins. En étant informés de la date de votre événement, ils ne seront pas surpris par le va-et-vient et le bruit. Mieux encore, invitez-les à profiter des aubaines avant tout le monde. Fixez les prix. Rappelez-vous que le but d'une vente débarras est de se départir d'objets qui nous encombrent et non de faire de l'argent. Soyez donc réaliste et raisonnable quant au prix demandé. Demandez le moins cher possible si vous voulez convaincre les gens d'acheter. L'étiquetage des objets vous servira d'aide-mémoire lors de la vente. Un truc, inscrivez les prix sur des pastilles adhésives colorées qui attireront l'attention. Afin de vous éviter d'écrire un prix sur chaque article, vous pouvez concevoir un mode de couleur que vous afficherez sur un grand carton. Par exemple, tous les objets dotés d'une pastille rouge coûteront 1 $, ceux qui ont une pastille bleue 2 $, etc. Fixez des prix ronds pour éviter les calculs compliqués. Et bien sûr, prévoyez suffisamment de monnaie pour les futurs acheteurs. Faites provision d'emballage. Vous aurez besoin de sacs en papier ou en plastique, de papier journal et de boîtes pour emballer les vêtements et objets fragiles que vous vendrez. Invitez vos proches ou vos voisins à vendre eux aussi. C'est une bonne idée, surtout si vous avez peu de stock à offrir. Sans compter qu'une vente de quartier ou même d'un bout de rue est particulièrement attrayante puisque le choix est vaste et varié. Et puis, en bonne compagnie, le temps passe plus vite. Mieux encore, faites participer vos petits-enfants en leur proposant de monter un stand de vente de limonade. Le jour J, levez-vous tôt. Occupez-vous des derniers préparatifs avant l'arrivée des clients. Accrochez un bouquet de ballons ou des fanions colorés autour d'un poteau au coin de la rue et devant la maison pour que les gens vous repèrent facilement. Installez un parasol pour vous protéger du soleil ardent ou de la pluie. Et prévoyez des bâches pour recouvrir les articles en cas d'ondées soudaines. Sortez une rallonge électrique et des piles pour démontrer le bon fonctionnement des objets électriques. Et n'oubliez pas de sortir une glacière contenant des boissons fraîches ou de l'eau pour vous désaltérer tout au long de la journée. Montez les tables, à l'exception des vêtements qui seront suspendus, par exemple installez une ficelle entre deux arbres, disposez tous les articles sur des tables en les classant par catégorie. Ainsi, les gens pourront les regarder et les toucher sans qu'il soit nécessaire de se pencher. Soyez à l'heure. Tout doit être prêt avant l'arrivée des premiers clients. Ainsi, vous pourrez leur consacrer toute votre attention. Conservez l'argent sur vous dans un tablier muni de grandes poches pour éloigner les voleurs. Sinon, affectez quelqu'un à la caisse. Enfin, soyez prêt à marchander. La négociation fait partie du rituel et du plaisir des ventes débarras. À la fin de la journée, il vous reste quelques articles à vendre. C'est le temps de proposer des 2 pour 1, proposer aussi des rabais. Et enfin, l'après-vente, donnez les articles non vendus à de nombreux organismes communautaires ou caritatifs qui seront heureux de recueillir ces objets qui n'ont pas trouvé preneur. Faites le grand ménage dès la fin de la vente, enlevez toutes les affiches annonçant votre activité ainsi que les ballons, démontez votre installation et nettoyez les lieux. Voilà, c'était Jacqueline Simoneau qui écrit cela dans le magazine Le Bel Âge de mai 2015.
simple souffle souple siffle dans le sang et se glisse entre tes dents. Simple souffle souple ton rire qui soupire. Tu m'inspires, tu m'aspires. Simple souffle souple juste pour te dire. Je suis fatiguée de mourir. Le songe valse aussi. Le songe valse ici, ici dans mes nuits. Entre la pluie et la poésie. Le songe valse aussi, le songe valse ici, simple souffle souple ici et là, perdu dans l'oubli.
Gare aux infections. Quelle sorte d'infection?
La gingivite.
Oui, vous avez parlé de gingivite. Non, je veux parler de quelque chose qui est moins vite, moi. C'est le soin des ongles. Ah. Ça, on parle, c'est rare qu'on parle de ça à une émission d'homme.
De pied ou de doigt de pied?
Là, on verra. Gare aux infections. Se faire faire les ongles des mains ou des pieds.
Ah bon, OK.
Ça remonte le moral. Encore faut-il que votre esthéticienne respecte certaines règles d'hygiène et de bonnes pratiques. L'été pointe son nez et avec lui arrive l'envie de bichonner vos pieds pour leur donner fière allure dans vos sandales. Pourquoi ne pas en profiter aussi pour mettre une touche de couleur sur vos doigts? Ouh. Pour beaucoup de femmes, c'est surtout pour les femmes, le rituel des soins en salon est l'occasion de se gâter à peu de frais. Pour 25 à 60 $ la séance de base, selon les établissements, elle s'offre une heure de détente. Au troisième rang des soins esthétiques les plus souvent donnés au Québec figurent ceux des pieds après le facial et l'épilation à la cire. La manucure, non pas la manicure, la manucure, elle occupe la sixième place derrière l'épilation au laser et à l'électricité, électrolyse, selon une étude menée en 2011 par le comité sectoriel de la main-d'œuvre des services de soins personnels.
C'est un magazine sérieux qui est de...
Écoutez, moi, je suis là de Protégez-vous, là.
Non, c'est ça.
C'est sérieux, là.
Oui.
Hein? On ne rit plus, là. L'hygiène essentielle. Pourtant, ces soins ne sont pas sans risque. C'est là l'affaire. En 2006, une femme du Texas est décédé d'une infection au staphylocoque doré. Le staphylocoque doré, pas n'importe quel.
C'est le pire.
Résistant à la méticilline à la suite d'une coupure au pied lors d'un soin esthétique.
Ah oui.
Deux ans plus tôt, la chanteuse Paula Abdul, tout le monde la connaît, là,
oui,
avait développé une infection similaire au pouce après s'être fait manucurer. Hein? En 2011, elle n'est pas morte, une étude présentée au Congrès de l'American College of Gastroenterology associait des cas d'hépatite B et C transmissibles par le sang au traitement donné en institut.
Vous m'en direz tant.
Je n'arrête pas de vous en dire, et même plus. Cela peut-il vous arriver? Difficile à dire, comme les soins esthétiques ne sont pas réglementés au Québec, à l'exception de ceux qui nécessitent une intervention chirurgicale, les données entourant blessures et infections sont inexistantes. Les podiatres, professionnels qui traitent les maladies de pied, interrogés, disent toutefois recevoir quotidiennement des patients aux prises avec les séquelles de soins esthétiques mal exécutés, que ce soit à la maison ou en salon. Mm-hmm. On apprend des choses. Hein. Il s'agit le plus souvent d'infections provoquées par des instruments mal stérilisés ou des ongles coupés trop courts qui entaillent la chair lors de la repousse et deviennent incarnés. C'est sans compter les champignons ou les ongles fragilisés par des soins trop agressifs ou par la pose de faux ongles. Tour d'horizon de ce que vous devez savoir avant de confier vos mains et vos pieds à une esthéticienne. Attention, on prend des notes. Mm-hmm. Les soins de base donnés aux mains ou aux pieds se résument à environ 5 étapes. Coupe des ongles. Limage. Massage pour stimuler la circulation sanguine. Application d'une lotion hydratante et pose de vernis à votre demande. Pour les pieds, un bain dans de l'eau enrichie d'une substance adoucissante et un fraisage de callosité s'ajouteront. Une exfoliation des mains ou des pieds, un polissage des ongles pour les faire briller ou un masque à la paraffine pour adoucir la peau des mains peuvent parfaire ces soins de base. De tels suppléments feront toutefois grimper le prix de quelques dizaines de dollars.
Oui, on s'en doute.
Ainsi, prenez le temps de demander quels sont les soins de base et ceux qui sont offerts en supplément. Votre esthéticienne, devrait commencer par vous poser quelques questions sur votre état de santé. Elle notera entre autres si vous êtes diabétique, donc prédisposé aux infections, si vous avez une maladie transmissible par le sang, et si vous prenez des médicaments qui éclaircissent le sang, ce qui retarde la coagulation en cas de blessure. La technicienne doit garder son espace de travail propre et désinfecter les limes, coupe-ongles et autres instruments après chaque cliente, à moins qu'ils ne soient à usage unique. Les outils susceptibles d'entrer en contact avec le sang devraient être stérilisés à la vapeur sèche, à la vapeur sous pression ou avec une solution de trempage spéciale destinée à cet effet. Alors moi, je vous dis, allez chez votre esthéticienne et apportez avec vous le protégez-vous.
Quel mois, ça?
Ça, c'est le mois de mai. Ça va?
Texte très important. Ma neige est plus blanche que la tienne. Où trouve-t-on la neige la plus blanche en Amérique du Nord? Au Canada, révèle une étude menée par des chercheurs de l'Université de Washington. La physicienne Sarah Doherty et son équipe analysent la propreté de la neige sur la planète. La chose n'est pas anodine. Les particuliers Les particuliers, oui. Les particules polluantes ou la poussière contenue dans la neige pourraient diminuer la capacité de celle-ci de refléter la chaleur du soleil et accélérer le réchauffement climatique. En 2013, ils ont parcouru 16 000 km pour prélever 500 échantillons de neige fraîchement tombée depuis le sud de l'Oregon jusqu'au nord du Manitoba. Tous ont été recueillis loin des routes, des villes ou des usines susceptibles de fausser les résultats, puis analysés en laboratoire. Les échantillons canadiens se sont avérés les plus blancs et les moins contaminés, suivis de ceux de la côte ouest et des rocheuses américaines. Pour boucler la boucle, j'ai commencé par la Chine. Tous ces échantillons étaient toutefois bien plus propres que ceux recueillis par l'équipe en 2010 dans le nord de la Chine, où la pollution industrielle, l'agriculture et surtout la désertification assombrissent le blanc manteau. Ma neige est plus blanche que la tienne.
Eh oui.
C'est beau.
Et maintenant, potage, omelette, macaroni. Jusqu'à la fête des mères, Claude Maupoint, chef de cuisine de Claude de Ramsay en 1715, nous entraîne avec une guide dans les rues du Vieux-Montréal sur un circuit historique et gastronomique. Du château Ramsay au musée de l'érable, ce survol de l'histoire de l'alimentation en Nouvelle-France est entrecoupé de pauses dégustations façon 18e et 19e siècle. Ce dernier démontre l'influence des immigrants sur notre alimentation. Ce sont des circuits le dimanche à 14h, sur un circuit payant, et on doit réserver à l'adresse châteauramezay.qc.ca.
Eh bien, dans le monde de la recherche, le brocoli contre le autisme et contre autisme et arthrose.
Ah oui?
Consommer du brocoli allégerait certains symptômes de l'autisme et ralentirait la progression de l'arthrose, font état deux études parues en 2014. C'est à la présence du sulforaphane, un composé abondant dans le brocoli, que les chercheurs attribuent leurs résultats. Alors, ces résultats ne convainquent pas du tout M. Yves Desjardins, professeur titulaire au Centre de recherche en horticulture de l'Université Laval et coordonnateur du groupe d'intérêt sur les produits végétaux. Selon lui, l'état actuel des connaissances sur les causes d'autisme et de l'arthrose ne permet pas de conclure quoi que ce soit de solide à partir du brocoli.
Ben, c'est ça.
Ben, voyons
les
donc.
Les études sont pas toutes bonnes.
Néanmoins, le brocoli et le sulforaphane qu'il contient restent de précieux alliés. Leur consommation aidera à prévenir plusieurs types de cancers, dont ceux du poumon et des reins. Le sulforaphane permet à l'organisme de désactiver les composés cancérogènes qui y circulent.
Maintenant, un sujet très sérieux. Une minute dans la vie d'Apple. Apple est devenue l'entreprise dont la valeur boursière est la plus élevée au monde à 716,7 milliards de dollars, soit autant que Google et Microsoft réunis.
Merveilleux.
Maintenant, une minute dans sa vie, ça veut dire 566 181 dollars de revenus, de profit 136 958. Vous faites le calcul pour l'année, Serge? Ça, c'est une minute.
Ah, une minute.
Oui. 565 iPhones vendus. 162 iPad vendus. Mmh. En une minute pour Apple.
Bon, hein?
Pas étonnant qu'ils sont riches, que c'est riche comme entreprise.
Ah! Et voilà, maintenant, cinq réflexions à propos du commencement.
Commencement.
La première. Toutes les grandes actions et toutes les grandes pensées ont un commencement dérisoire. C'est Albert Camus qui a écrit cela.
Ah!
Ensuite, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. Ah. Ça, c'est Goethe.
Oh, c'est beau, ça.
Encore, la création du monde n'a pas eu lieu au début, elle a lieu tous les jours. C'est Marcel Proust. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. Ça, c'est l'abbé Pierre. Et voilà, et c'est toujours par la faim, F-A-I-M, qu'on commence un bon repas. Ça, c'est Jean-Louis Auguste Commerson.
Mon Dieu, que de belles choses sont écrites et dites ce matin. Et moi, je finis par inutile. Ben oui. Vaut-il mieux maigrir lentement ou rapidement?
C'est tout un dilemme.
Ni l'un ni l'autre, conclut une étude australienne à l'approche de la saison des maillots.
C'est une université?
Dans le cadre de cette recherche, publiée en octobre 2014 dans la revue The Lancet Diabetes and Endocrinology, deux groupes de sujets ont suivi un régime amaigrissant rapide. OK? À la fin de l'expérience, les deux cohortes avaient repris un peu plus de 70 % du poids perdu. Bon. Hein? Oui. Le docteur Michel Lucas, chercheur à la Faculté de médecine de l'Université de Laval et au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire du Québec, n'en est pas surpris. On sait depuis longtemps que les régimes induisent une perte de masse musculaire qui elle-même réduit le métabolisme de base, lance-t-il, et cela force le corps à fonctionner avec moins d'énergie et à accumuler plus facilement les kilos. Alors mieux vaut donc s'attarder à la qualité de son alimentation plutôt que de miser sur les régimes.
Bien d'accord.
Voilà.
Bon, alors, parlant d'alimentation, après les œufs blancs et les œufs bruns, voici les œufs verts. Saviez-vous ça? La ferme des Patriotes, filiale de la ferme Saint-Ours à Montérégie, produit désormais des œufs d'un vert tendre. Gracieuseté de poule issue de race ancienne qu'elle a acquise l'automne dernier. De quoi faire sensation. Alors, c'était le Kiosque Magazine que nous avions vous proposé en ce 4 mai. Ici Serge Hamelin, Jean-François Nouviard, Roger Roy, nous vous disions au revoir et en remerciant Jean-Sébastien.